à tous et à toutes, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative, une émission proposée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, notre bénévole Thomas Roland rencontre Daniel Cardel, artiste peintre rock'n'roll et créateur de bandes dessinées. L'artiste nous ouvre les portes de son atelier pour nous partager sa passion des années 60 et découvrir son univers atypique.
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis donc dans l'atelier du peintre Daniel Cardel, une petite pièce située au-dessus d'un garage qui est décorée de multiples tableaux donc de Daniel Cardel, mais aussi de posters de stars du rock des années 60, notamment Lucky Blondeau. Et je suis donc avec Daniel Cardel. Bonjour Daniel Cardel.
Bonjour.
Vous décrivez comme un peintre rock'n'roll. Alors qu'est-ce qu'un peintre rock'n'roll ?
Oh, ben, je dirais que je sors un peu des sentiers battus. Et puis, bon, j'ai beaucoup de liens avec, effectivement, vous venez de parler de Lucky Blondeau, d'artistes qui sont rock'n'roll, que je qualifie de rock'n'roll. Donc pourquoi pas un peintre rock'n'roll.
Ah, comment ça vous est venu ce goût pour la peinture, cet attrait pour la peinture, et comment vous êtes devenu peintre?
Oh, ça, tout petit, avant de savoir lire, écrire, j'ai toujours dessiné. Ma passion, c'est le dessin. Alors après, forcément, le dessin, après c'est venu la peinture, et puis bon, je suis d'une génération, des années 60, hein. J'étais tout petit, j'étais souvent chez des cousins qui étaient plus âgés que moi, qui écoutaient à l'époque, salut les copains, qui a duré longtemps, mais donc je suis imprégné de ça, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans ma peinture, donc beaucoup de références à ces années-là. Même encore actuellement, par exemple, je suis en lien avec Lucky Blondeau, avec Annie Philippe, qui étaient des stars de cette époque-là.
Comment vous êtes venu à avoir cette thématique particulière?
Bon, ça, c'est un long cheminement, hein. On commence de façon très classique. J'avais rencontré un artiste qui avait fait les Beaux-Arts de Bruxelles, qui m'a appris les bases de la peinture à l'huile. Mais au départ, j'ai peint comme tout le monde. J'ai peint des bouquets de fleurs, j'ai peint des paysages. Mais petit à petit, on trouve sa voie. Et voilà, ça se fait pas... On se réveille pas un matin en disant « je vais faire ça ». Ça s'est fait progressivement.
Alors, ce qui frappe quand on voit vos tableaux, c'est on se dit « tiens, on dirait du Clovis Trouille ». Mais... au niveau des couleurs, du trait, de la texture. Mais Clovis Trouille, c'était un peintre surréaliste, un proche d'André Breton. Et vous, vous en êtes plutôt éloigné au niveau de la thématique. Comment vous définiriez vos thématiques?
Moi, j'admire beaucoup, hein, Clovis Trouille. Il a une influence sur moi. Hein. On a de multiples influences. Clovis Trouille, c'est quelqu'un d'à part dans la peinture. Je ne vais pas refaire du Clovis Trouille. C'est pareil, je vais dire, Jérôme Bosch, j'adore. C'est peu que dans des tableaux, on trouve un petit clin d'œil, hein, mais voilà. Je suis d'une époque quand même différente, mais j'en reviens à mes références. Moi, je suis quand même plus marqué par les années 60, c'est ce qu'on retrouve principalement dans mes tableaux, quoi. Ce qui n'empêche que j'ai toujours une admiration profonde pour Clovis Trouille.
Est-ce que vous auriez un tableau à nous présenter, là parmi ceux qui sont exposés dans votre atelier?
Oh, allez, on va prendre lequel. Je prends au hasard, là, il y a... avec les multiples fenêtres, ou alors, puisqu'on est amis à la Lune des Pirates.
Les multiples fenêtres, ça me plaît bien.
Les multiples fenêtres. Bon, alors ça, c'est inspiré un peu, ben voilà, c'est un peu... à la fois humoristique et érotique, hein, parce que aussi les années 60, c'est aussi, j'ai été élevé, bien sûr tout petit c'était pilote, mais après c'était Harakiri, hein, le professeur Choron, etc. J'admire beaucoup aussi par exemple les dessinateurs comme Manara. Mmh. Manara, un dessinateur érotique formidable. Donc on retrouve un peu tout ça dans ma peinture. Et donc, sur ce tableau-là, Je suis parti d'un dessin que j'avais vu, un autre dessinateur, comme quoi on a multiples références, c'est Dubout. Dubout, c'était... les années 50, je dirais, je ne sais plus exactement. Donc j'ai repris, il avait fait un dessin comme ça, il y avait plein de fenêtres, c'était très drôle, je ne sais plus ce que c'était, le titre, peu importe. Et donc j'ai imaginé, c'est un tableau pour voyeurs, quoi. Les fenêtres sont ouvertes, on voit ce qui se passe dans toutes les pièces. Évidemment, il y a beaucoup de filles qui se déshabillent, des couples, il y a plein de choses. Voilà.
Il y a aussi, je vois, des références à la culture populaire. Je vois, il y a un ersatz de Superman en haut à gauche, voilà. Là. Il y a un monstre qui enlève une jeune femme. On pourrait penser à King Kong, par exemple.
King Kong, oui, voilà. Il y a Marilyn. Marilyn qui est incontournable. C'est notre culture, c'est ma culture pour moi. Et puis, on peut remonter plus loin, là. C'est des danseuses... des folies bergères, enfin, peu importe. Le tableau, un tableau très célèbre, Le baiser de Ayer. Non, c'est un mélange de toutes... toutes mes préférences, toutes...
Vous dessinez beaucoup des lieux d'Amiens, comme le quartier Saint-Leu, oui. L'intérieur des bars. Qu'est-ce qui vous attire dans ces lieux-là, dans les personnages que vous peignez ?
Oh ben, moi, de toute façon, j'ai toujours été habitué à aller dans les bars, dans les bistrots, tout jeune. Et c'est un peu logique, j'ai exposé pendant très longtemps dans des bars, dans des bistrots, notamment à Saint-Leu. C'est plus possible actuellement parce que ça a changé, je le regrette beaucoup. Mais c'est un milieu que j'adore, c'est un milieu où les gens discutent. Non, on refait le monde. Pour moi, un café, c'est une maison de la culture. Hein. Je peux pas... je pourrais pas vivre dans un lieu sans café, sans bistrot. Et je regrette que, encore une fois, maintenant, à Amiens, il n'y a plus de café où on peut exposer. C'est très difficile, ça devient très compliqué. Alors qu'il y a encore 20 ans, on exposait relativement facilement. Il y a beaucoup plus de lieux pour exposer. C'est un problème maintenant. Et vous parliez de rock'n'roll, alors là, c'est un truc quand même dont je suis très fier. C'est Chris Evans, un chanteur qui a chanté pour l'anniversaire de la mort de Johnny à la Madeleine à Paris. Donc il y a mon ami Lucky Blondeau qui a écrit une chanson spécialement sur ma peinture, Les Demoiselles de Daniel. Vous la connaissez ?
Pas du tout.
Oh, je vais vous la faire écouter alors.
D'accord.
On l'écoute ? Non, elle est vachement bien, cette chanson. Elle colle tout à fait à ce que je fais. Et puis à Saint-Leu, rien. Et là, quatrième.
Les demoiselles de Daniel n'ont jamais froid aux yeux. Quand elles promènent leur porte-jartelle dans les bars de Saint-Leu. Elles sont toutes folles des pitantelles, les demoiselles de Daniel. Elles posent leur cul sur le capot des Cadillacs Eldorado. Elles chevauchent des Lambrettas du temps de la Dolce Vita. Ce sont des anges, elles ont des ailes, les demoiselles de Daniel. Ce sont des oranges, elles ont des ailes, les demoiselles, celles de Daniel. Ce sont des anges, elles ont des ailes, les demoiselles de Daniel. Jambe légère, elle rock, elle twist, elle Madison devant le Pulitzer. Et quand vient la nuit, elles s'envolent, elles vont rejoindre leurs idoles Elle nous emmène au septième ciel, les demoiselles de Daniel.
C'est bien, ça vous a plu?
Bah, oui, on reconnaît bien les... On reconnaît bien les peintures, les tableaux.
Ça,
hein.
Ça colle à la peinture, hein, ouais. Et, tout à fait. Ce qui m'a fait connaître auprès de gens comme Lucky Blondeau et Christophe aussi, c'est la revue Jukebox. Alors, je ne sais plus comment ils m'ont connu, mais ils m'invitaient régulièrement à Paris, à la porte de Champéry, où il y avait un salon du disque, du CD, tout ça. Et il m'invitait à exposer forcément mes toiles.
Et quand vous dessinez, par exemple, là, je vois la devanture de la Lune des Pirates, là, avec une petite foule, ou même l'intérieur du couleur café.
Oui.
Vous travaillez de mémoire, vous faites sur photo, vous êtes sur place.
Je vais dire, il y a un peu de tout. Parce que, bon, par exemple, je prends le couleur café où j'ai exposé pendant des années. Au départ, j'ai sûrement fait des croquis. C'est même sûr, j'ai encore des croquis du couleur café, j'en ai des tas. Il n'y a pas que le couleur café, il y a aussi le Nelson, enfin bref. Mais à force de les reprendre, on finit par faire deux têtes un peu. Vous voyez. Mais au départ, il y a toujours soit des croquis, soit des photos. Là, par exemple, ce tableau-là, c'est un café qui était à Cailleux-sur-Mer. Je ne sais plus, au départ, il y a forcément... Sûrement que j'ai fait un croquis, hein, Bon. Et là, pour la Lune des Pirates, c'est un lieu mythique sur Amiens. Donc, je pars du bâtiment qui existe. Puis après, on laisse l'imagination délirer. Quoi.
C'est vrai qu'il y a quand même un petit côté un peu fantastique, surréaliste. Là, je vois il y a un homme-loup ici.
Le loup de Tex Avery aussi, ouais. Qui revient souvent dans mes tableaux aussi. Parce que le loup, c'est... Moi, bon, c'est un symbole, c'est le mec qui est là, qui drague, qui est là, il a la langue qui est sortie, c'est rigolo, il drague, mais en même temps, il est pas méchant, quoi. On se demande même s'il va approcher de la fille,
il
bat.
Il y a un homme avec un chapeau, ça peut faire un peu film noir, enfin, même plusieurs hommes avec des chapeaux,
fait, oui, oui,
il y a un petit côté film noir, puis toujours cet érotisme avec des femmes.
Oui, oui, aux fenêtres, ou même, oui, oui. Là c'est pareil, j'ai repris tout à l'heure, je parlais d'Annie Philippe, elle lui ressemble beaucoup, c'était Annie Philippe, c'est une fille qui a posé, une chanteuse qui était proche de Claude François, dans les années 60, qui a posé pour lui, un journal de l'homme moderne, c'est tout un symbole, là. Ça fait partie des femmes qui ont contribué à la libération de la femme, et ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Alors, y a, effectivement, c'est très empreint d'érotisme, vos toiles. Et aujourd'hui, vous disiez que c'est difficile d'exposer parce qu'il n'y a plus vraiment de lieu pour exposer, notamment dans les bars, ce qui vous intéresse le plus apparemment, d'exposer dans les bars. Mais justement, cet érotisme, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas plus difficile de l'exposer
Si, tout à fait, tout à fait. Là, justement, je termine une exposition dans un café, je peux le nommer, chez Pierre. Hein,
Le café, oui.
J'ai demandé si je pouvais exposer un tableau, justement, comme celui-là, avec les fenêtres, parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu osées. On est dans une époque où les gens sont pudibonds. Non, c'est très compliqué. Bon, les gens sont choqués avec rien, hein, Encore une fois, je me demande actuellement, je prends un journal comme Harakiri à l'époque du professeur Choron, Dreiser, Cavana. Aujourd'hui, ils auraient des procès sans arrêt, et je ne sais même pas si ça sortirait encore. Moi je pense qu'au niveau de la liberté comme ça d'expression, on est en train de reculer. C'est inquiétant. J'ai déjà entendu, oui, tu présentes la femme objet, mais non, c'est pas la femme objet, c'est la femme qui est belle et qui se fait désirer. C'est pourquoi la femme objet, non. De toute façon, je suis désolé. Moi, je dis que quand une femme est belle, il faut le dire, il faut la montrer. Il n'y a pas de honte à ça. Les gens qui cachent les femmes, c'est des malades. Hein. Toutes les religions cachent les femmes. Parce que c'est toutes les religions monothéistes. Hein. Autrefois, vous aviez les religions polythéistes, les Grecs, tout ça, au contraire, on montrait les gens nus. Mmh. Et c'était quand même mieux dans leur tête, à mon avis. C'est ce que je pense. On en revient à Clovis Trouille, il y a quand même dans ma peinture un côté provocateur. Mmh. Hein, ne serait-ce que par l'érotisme, un humour un peu décalé.
Alors je vois qu'il y a quand même beaucoup de toiles, dans le garage en dessous de l'atelier,
oui,
il y a beaucoup de toiles, là je vois dans un placard,
ouais, on a plein,
il y a beaucoup de toiles.
Oui.
Comment vous travaillez, avec quelle matière, et puis combien de temps ça vous prend pour faire un tableau d'une taille standard? Là ça fait quoi? Ça fait un mètre sur...
Celui-là il fait peut-être pas un mètre, mais pas loin, sur 80, oui. Mais alors là c'est compliqué, hein, parce qu'un grand tableau comme ça... D'abord, je peins à l'huile, donc l'huile, il faut du temps. Il n'y a plus beaucoup de monde non plus qui peint à l'huile, parce que c'est tout un savoir-faire qui est en train de disparaître. Et donc, quand je commence une toile, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être terminée, surtout un grand format comme ça. Parfois, ça me prend des années. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, on ne peint pas à l'huile parce que ça met longtemps à sécher ». C'est un faux problème, parce que moi, j'ai 10-20 toiles en cours. Donc, il n'y a pas de problème, ça sèche dans un coin, j'en reprends une autre, et voilà. Donc, quand vous me demandez combien de temps je mets pour faire une toile comme ça, je veux dire, je l'ai peut-être commencé il y a 5 ans, et puis j'ai fini là, dernièrement.
Donc, comme un écrivain, vous pouvez avoir plusieurs toiles en route.
Voilà, tout à fait, c'est la même façon de fonctionner. Celui qui, pour moi, quelqu'un qui va prendre... sa toile, qui va faire une toile à la fois, moi c'est gentil, mais c'est pas sérieux. Quoi. Effectivement, je travaille plus comme un romancier, donc on avance, on retravaille, on modifie, il faut laisser du temps aussi, du recul, parce que quelquefois il y a des tableaux. Tout à l'heure, j'ai un de mes modèles qui va venir. Elle n'est pas que modèle parce qu'elle est prof d'art. Et on se pose des questions quand même. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut changer des choses? Oui, non, c'est tout un travail. Hein.
Ah, Daniel Gradel, je vois aussi, là, il y a un tableau qui représente une scène de bal.
Oui, voilà.
Donc, c'est aussi, on est toujours un peu dans la même thématique. Hein,
tout à fait, oui.
Des ambiances festives, un peu érotiques,
oui.
Très empreintes de rock'n'roll.
Oui.
Quand vous peignez, est-ce que vous peignez dans le silence complet ou est-ce que vous écoutez du rock'n'roll?
Ah, j'écoute... la musique que j'écoute, c'est toujours les années 60, en gros. Hein. Alors, c'est pas forcément du rock'n'roll. Hein. Mmh. Par exemple, j'adore François de Gelt. Est-ce que vous connaissez François de Gelt? Le ciel, le soleil et la mer.
La musique, c'est pas mon truc, moi.
Non, c'est pas votre truc. Bon, enfin bref. François de Gelt, c'était le crooner des années 60 en France. Hein. Le crooner, l'un des crooners. Et bon, j'aime bien parce que c'est... Ouais, ça va avec ce que je fais. Mais ça m'arrive aussi d'écouter Johnny Hallyday, enfin, peu importe, de tous les gens de cette époque-là.
En quoi
et la Lucky musique... Blondeau, qui est mon ami, j'étais encore avec lui la semaine dernière.
Et en quoi la musique, le rock'n'roll en particulier, avec vous...
Oui.
Vous vous décrivez comme un peintre rock'n'roll. En quoi elle vous influence? Est-ce que ça vous apporte des images? Est-ce que, quelque part, est-ce que ça vous influence quand même?
Ah oui, totalement, parce que... Bon, là, par exemple, ce tableau-là, alors c'est peut-être pas un bon exemple, parce que j'ai fait ce tableau-là en pensant à une chanson, Le premier pas, c'est de... Je sais plus, Schoenberg, je crois, non, comme ça. Bon, peu importe. Mais quelquefois, oui, il y a des chansons... Ça fait tilt, je dis, oh, je vais faire un tableau qui colle avec la chanson. Hein, ça peut arriver.
Donc là, on parle du tableau de la scène de bal avec oui. Des couples enlacés, avec un groupe qu'on devine genre Forban
oui,
sur la scène en arrière-plan.
Peu importe, il faut que je retravaille un petit peu. Tout à l'heure, je vais voir avec mon modèle ce qu'elle en pense, mais c'est pareil, la fille, là, j'ai un doute, je sais pas bien si le visage va rester comme ça. Oui, non, mais.
Ah, ça se passe comment justement? Parce que, voilà, moi en tant que novice, là, en tant que béotien, on va dire,
oui.
Ça me semble terminé. Alors, comment vous retravaillez justement ce visage
C'est l'intérêt de l'huile. L'huile, on peut retravailler sans arrêt. Hein. Je veux dire, ça pourrait être terminé. J'ai un doute. Le visage est pas mal, mais bon, je me dis peut-être qu'elle manque de sensualité. J'ai fait deux autres versions un peu différentes. Après, c'est à voir. Effectivement, il est peut-être terminé, mais j'en suis pas encore sûr.
Mais c'est-à-dire, vous effacez, vous repassez dessus,
Ah ben ça, oui, on prend de l'essence de térébenthine, on efface, oui, d'accord. Et puis on remet par-dessus. Oui, on attend que ça sèche, bien sûr, parce que sinon on fait des cochonneries. Mais non, c'est, encore une fois, c'est l'avantage de l'huile. Les gens, ils peignent à l'acrylique parce que, soi-disant, ça va plus vite. Moi, je veux bien, mais l'huile, ça a de multiples avantages. Déjà, au niveau des couleurs, les couleurs, quelque chose de beaucoup plus profond, c'est nettement mieux. Et puis, ça peut se retravailler sans arrêt. Et puis, ça, je veux dire, bon, ça veut dire, on s'en fiche, mais dans le temps, ça ne bouge pas, quoi.
Alors là, je vois une bibliothèque aussi, je suppose une bibliothèque liée à l'histoire de l'art, avec des livres sur des peintres, etc. Ouais. Et c'est encore des livres que vous consultez pour vous inspirer
Ah bien sûr, oui, tout à fait. Je prends par exemple Bruno qui a fait des affiches, vous voyez, pub pour Rouge Baiser. C'est indispensable pour un peintre d'avoir des références comme ça, parce que bien sûr il y a l'ordinateur, internet, tout ça, mais les livres d'art, c'est quand même on voit quand même mieux, quoi. C'est ça aide. Oui.
En parlant
et pareil dans mes références, les bouquins là c'est rien que des pubs des années 50, quoi, des pubs américaines, peu importe, mais j'y ai souvent recours parce que, selon les tableaux, là, on n'en voit pas, mais je veux dire, oh, cette pub-là, elle irait bien dedans. Puis en plus, des fois, il y a des noms rigolos.
Et c'est pas un souci. Bon, c'est des vieilles pubs, hein, mais
il n'y a
pas de souci de copyright quand vous reproduisez quelque chose comme ça?
Ouais, je m'arrange toujours pour.
Pour détourner un peu?
Ouais, changer un petit truc. C'est vraiment pas important, non.
Moi, quand je vois vos peintures, hein, que j'ai découvert au café, hein, chez Pierre, bien sûr, la première référence que j'ai eue, c'est Clovis Trouille, mais il y a aussi un côté bande dessinée. Et je crois savoir que vous avez fait de la bande dessinée.
Oui, j'en fais un petit peu. Enfin, j'en fais même mes heures perdues. J'en ai toujours fait. Quand j'étais gosse, j'ai commencé par faire des bandes dessinées pour moi, tout ça. Là, j'ai fait, avec mon ami Philippe Lacoche, j'ai repris trois nouvelles de Philippe Lacoche, et on a fait un petit livre, qui est là d'ailleurs, Libération. Et donc, j'ai adapté trois nouvelles en bande dessinée. Ça m'amuse beaucoup, hein, mais c'est différent, quoi, c'est pas le même travail. Mais bon, j'aime bien, hein, ça me permet de changer de la peinture, ça fait une coupure.
Pourquoi faire tant d'efforts ?
Vous pouvez découvrir ce livre, Libération, qui est paru aux éditions Les Soleils Bleus, au cours de sa présentation le 23 mai à 18h à la Comédie de Picardie, en présence de Daniel Gradel et de Philippe Lacoche. C'était une petite visite dans l'atelier de peinture de Daniel Gradel, peintre rock'n'roll. Si vous souhaitez découvrir les toiles de Daniel Gradel, il devrait exposer ses toiles à la galerie de la Dodane fin de l'année 2024.
Et dis-toi bien que je ne pourrais plus te parler. Si tu voulais me voler cette sacrée liberté, tu voudrais qu'on se marie, qu'on ait des enfants.
C'est déjà la fin de cette interview. Merci Thomas. Pour rappel, il est allé à la rencontre de Daniel Gradel, artiste peintre rock'n'roll. Je vous propose de terminer cette émission avec le second épisode de la série consacrée à l'e-sport, réalisée par Sarah Raymond, étudiante en Master 2 journalisme de l'UBJV. Merci pour votre écoute et à bientôt sur notre antenne.
J'ai demandé à mon père s'il savait ce qu'était l'e-sport. À ses grands yeux écarquillés, j'ai vite compris que cette notion lui était pour le moins obscure. Si comme lui, vous souhaitez lever avec moi ce mystère, je vous invite à rester. Vous écoutez Virtual Vortex, les héros du clavier. J'ai envie de dire, commençons par le commencement. L'e-sport, c'est simplement un mot qui vient d'électronique et de sport.
Wow.
Il est apparu en 2018, donc il vous reste quand même du temps pour vous remettre à la page. En bref, pas de panique. C'est un sport qui est pratiqué en compétition par des joueurs professionnels à distance ou dans des endroits comme des arènes. Que ce soit sur ordinateur, console, tablette ou bien smartphone, vous jouez simplement à un jeu vidéo en compétition. Et on parle ici d'un phénomène mondial. Vous imaginez gagner des millions de dollars en jouant à votre jeu préféré ? Eh bien, c'est possible. Ça peut paraître fou, mais c'est bel et bien ce qui se développe depuis plusieurs années et encore plus maintenant. L'e-sport connaît une expansion spectaculaire à travers le monde. De simples tournois locaux sont devenus des événements internationaux majeurs, remplissant des stades entiers et attirant des millions de téléspectateurs en ligne. En France, par exemple, 28 000 personnes s'étaient rendues à la Défense Arena lors d'une compétition. Non seulement des équipes professionnelles sont créées, en France par exemple, on a la Karmin Corp, Vitality ou encore Solary qui sont dans le top 3 de l'année 2023 selon une étude de France e-sport. Mais ça ne se résume pas seulement à la compétition. L'e-sport a vraiment un impact culturel et économique significatif. On ne va pas se le cacher, la crise sanitaire, ou plutôt le mot qu'il ne faut pas prononcer, le Covid, y a été pour beaucoup. Selon l'association France e-sport, on a des chiffres pour 2023 qui sont assez impressionnants finalement. Ça se traduit par 11,8 millions d'internautes de 15 ans et plus qui s'intéressent à l'e-sport, soit 1 million de plus que 2022. Et parmi celles-ci, on compte 4,7 millions qui pratiquent et regardent l'e-sport. Comme moi, vous avez probablement ressorti une vieille console ou investi justement dans de nouveaux appareils pour combler l'ennui.
Si l'image du geek enfermé dans le noir dans sa chambre vous vient en tête, l'idée ici est de plutôt casser ce cliché. Si certains jeux ne requièrent pas forcément de grandes capacités physiques, dans tous les cas, un travail, un effort mental s'opère. Concentration, capacité d'analyse, réflexe ou simplement savoir comprendre d'autres langues sont parfois nécessaires, surtout quand il s'agit de jeux compétitifs se jouant à plusieurs. Selon vous d'ailleurs, quel est le top 3 des jeux les plus joués au monde actuellement ? Allez, je vous laisse quelques secondes. En troisième position, on retrouve League of Legends avec plus de 14 millions de joueurs. C'est Minecraft qui prend la deuxième position avec 22 millions de joueurs. Enfin, ça ne vous surprendra pas, c'est Fortnite qui se hisse en première position avec plus de 30 millions de joueurs. Pour en revenir à League of Legends, porté par le studio Riot Games, il entame cette année sa 14e saison compétitive. Pas étonnant puisque le tournoi d'e-sport consacré à ce jeu est le plus suivi au monde. Le tournoi de League of Legends 2023 a en effet été regardé par plus de 6 402 760 spectateurs, selon les données d'e-sport charts. Autant vous dire que l'e-sport a encore de beaux jours devant lui.